There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Devoir de mémoire, décoloniser la mémoire. Le 23 août, souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous avons le plaisir de recevoir un nouveau partenaire, Image Création Interprétation, un centre culturel de Montréal regroupant des artistes passionnés qui ont à cœur de mettre en avant les arts de la scène. Et il nous invite à la 5e édition du Festival du Souvenir, qui se déroulera du 14 au 23 août au quartier Ahuntsic à Montréal. Le festival fut institué à Montréal en 2020 pour souligner la date de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée chaque année le 23 août par l'UNESCO. Le Festival du Souvenir offre au public une semaine de réflexion et d'activités culturelles sur la mémoire de l'esclavage et la culture des peuples racisés. Du 23 au 30 août, rejoignez-nous pour célébrer la mémoire à travers des expositions, projections de films, des conférences inspirantes, des rencontres interculturelles et des émissions spéciales sur CUT 89,5 FM. Et cette année, Monsieur François Benjamin, écrivain, poète et homme politique profondément enraciné dans le monde culturel, assumera le rôle de président d'honneur. À ses côtés, Madame Chantal Ismay, féministe, militante politique, sociologue, urbaine et chercheur communautaire, assumera avec conviction le rôle de porte-parole de cette 5e édition résolument tournée vers la justice historique et la revalorisation des mémoires marginalisées. La présence de ces deux personnalités inspirantes promet une programmation vibrante, porteuse de sens et d'engagement. Le Festival du Souvenir, 5e édition, à retrouver sur www.ici-theatre.ca ou popourichaud.com.
C'est l'histoire de Luc qui, arrivé à la piscine, s'aperçoit qu'il n'a pas son maillot de bain et ses lunettes de natation.
De Clara, qui n'a pas eu le temps d'acheter son bonnet de bain.
Ou encore de Nathalie, qui a oublié les brassards et les couches bébé nageurs de son fils.
Mais tout cela, c'était avant l'arrivée des distributeurs automatiques de natation Swind.
Top Sec Équipement propose un concept exclusif. Swind, le distributeur automatique d'articles de natation de qualité, à prix très attractif. Disponible dans toutes les piscines de France.
Info sur la page Facebook Top Sec Équipement.
Pour la rentrée 2025 à 2026, Popourichaud confirme son ambition de rester une référence incontournable de la francophonie d'ici et d'ailleurs. 2025-2026, des nouveautés, des débats, des coups de cœur, des coups de gueule, de nouvelles voix et du renfort avec les podcasts du CREFO. Les rendez-vous de Ciné Franco, les projets et initiatives visant les communautés immigrantes francophones de la région de Welland et du Niagara, avec nul autre que Sophie Franc, les projets de Français du Monde Toronto, les rendez-vous et nouveautés littéraires de la communication et les éditions prises de parole, le journal d'Haïti et des Amériques avec RFI et France 24, les visites guidées du Musée Royal de l'Ontario, la playlist de nos DJ et de Tolalito Music, et les enjeux et défis de la francophonie et de l'intelligence artificielle. Singulière et plurielle, Popourichaud assume son rôle de repère dans un contexte d'incertitude démocratique. Plus de détails sur popourichaud.com. Et si vous souhaitez être parmi nos partenaires, une seule adresse, popourri@cut.fm. Et pour vous donner une idée de ce que vous attend 2025-2026 sur notre antenne, en voici un extrait.
Bonsoir, ce soir vous allez découvrir notre grande enquête sur l'intelligence artificielle parce que ça y est, elle est entrée dans nos vies quotidiennes. Dans les entreprises, elle sert à recruter les salariés, à les évaluer, parfois même à les surveiller. L'intelligence artificielle permet aussi au fisc de traquer les fraudeurs, mais elle entraîne également des milliers de suppressions de postes de fonctionnaires. Alors est-elle si efficace que cela? Commet-elle des erreurs? Eh bien, pour le savoir, on va d'abord aller l'interviewer. Suivez-moi.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeur et locuteur. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti, j'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite, libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pan. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rapport à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Et même s'il pleut l'été, dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo.
L'été sera chaud sur CUT 89,5 FM Toronto. Emmenez Popourri Show et CUT FM dans vos valises en faisant le plein de podcasts inédits de nos partenaires au CREFO, Université de Toronto. Et les incontournables festivals et suggestions de voyages dans un des pays membres de la francophonie. Tout l'été, la musique résonne au rythme de la playlist de RFI et de la Little Music. Découvrez tous nos jeux concours et les rendez-vous de l'été de nos partenaires sur popourrichaud.com. Nos sincères remerciements au Musée Royal de l'Ontario, le Festival Compass de l'Ontario, le CREFO, Ciné Franco, Afrofest 2025, Apéro Chic. Oui, oui, l'été sera chaud avec des cadeaux, des surprises, des t-shirts et des casquettes de CUT-FM. Inscrivez-vous immédiatement en m'envoyant un message à popourri@cut.fm. Été 2025, 40 degrés à l'ombre. Une présentation d'Eric Kader et DJ Devera. Mesdames et messieurs, bonjour. En direct de Bluffers Park, l'une des plus belles plages de Toronto, un endroit très prisé les week-ends, surtout en été. Et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission en direct. Programmation estivale vibrante tout au long de l'été. On vous présente, comme toujours, la revue de presse et des magazines de nos médias partenaires, les grandes expos de l'été, les festivals de musique et le festival TIFF Cinéma à Toronto. Et oui, j'ai quelques paires de billets pour vous, madame, messieurs. Vous m'écrivez à popourri@cut.fm. Les événements culturels, les histoires et les potins de monsieur et madame Ledoux seront au menu tout au long de l'été. Et les humoristes qui mettront leur grain de sel et une bonne dose de boisson rafraîchissante des tropiques. Eh oui. Et au menu ce dimanche, le choix littéraire de l'été de France Inter. Les critiques discutent de Toronto, second roman de l'autrice québécoise Elisabeth Benoît. Fascinée par le couple d'acteurs Johnny Depp et Amber Heard en conflit. Eh oui, vous vous souvenez, ça avait fait la manchette, hein. Et donc, l'écrivaine a conçu un roman hypnotique fondé sur la masse de documents sur le sujet disponible sur les réseaux sociaux. Et France Inter s'en est intéressé et on en parle dans la première heure. Nos amis d'Apéro Chic vous invitent chaleureusement à Saint-Tropez le mercredi 20 août de 18h30 à 23h. Ça promet. Soirée glamour en blanc sous les étoiles de Cabana Pool Bar qui vient d'être rénovée. Une paire de billets à la première personne qui m'écrit à popourri@cut.fm. Tous les détails sur popourrishow.com. Rendez-vous à Saint-Tropez le 20 août. Soyez-y. Et je vous invite au voyage dans l'univers de la francophonie et les expressions, les mots des vacances d'été avec nul autre que la grande spécialiste et animatrice de TV5 Monde, Linda Giguère. La journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée par l'UNESCO chaque année le 23 août, fera partie de nos prochaines émissions en partenariat avec le Centre culturel Images, Création, Interprétation, ici, basé à Montréal. C'est tout un honneur de travailler avec eux dans le cadre de leur 5e édition, Festival Souvenir du 14 au 30 août à Montréal. Nous entendrons la voix de la porte-parole, Madame Chantal Ismay. Plus de détails sur www.ici-theatre.ca ou popourrichaud.com. Et pour la petite histoire, pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de la dramatique traite transatlantique des esclaves, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. L'esclavage est aboli le 1er août 1834 dans la plupart des possessions britanniques, Caraïbes, Afrique du Sud et Canada. Africville
la Nouvelle-Écosse au Canada a été désignée comme lieu de mémoire lié à l'esclavage par l'UNESCO. Gagnez vos places au TIFF, le premier long métrage de la réalisatrice belge Cato Kosters, baptisé Julian, bénéficiera d'une première projection mondiale en septembre prochain au Festival du film de Toronto. Le film Julian est basé sur le livre éponyme de l'écrivaine belge Fleur Pierret et raconte l'histoire de deux femmes follement amoureuses qui décident de se marier dans chaque pays qui l'autorise. Cato Kosters, âgée de 26 ans, devient ainsi la plus jeune Belge à présenter un film lors du célèbre Festival canadien. Le Festival de films de Toronto se déroulera du 4 au 14 septembre et Julian sortira dans les salles belges, si vous êtes en Belgique, le 29 octobre prochain. Les nouveautés de Tolalito Music, Montréal. L'artiste montréalais d'origine haïtienne Wesley sort L'ennui mou. Et oui, une chanson qui célèbre l'amour authentique et sincère, sans artifice. C'est une invitation à rêver à un amour vrai et sans phare. En résumé, Wesley nous propose une chanson douce et poétique qui célèbre un amour sincère et sans artifice. Une invitation à rêver un amour vrai. L'amour nous de Wesley, en exclusivité sur CUT 89,5 FM, votre radio de l'été 2025, en partenariat avec Tolalito Music, 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 Music.
Ou ces étoiles qui brillent seul moi qui t'en coupe le coco et bon l'ombre. Parce que vous me gardez, vous allez soigner, vous m'aimez comme que tu m'aimes dans ma lèvre. Vous m'aimez moi crier, vous m'aimez moi rêver, c'est pas pour que moi vérité. Vous m'en ont dépassé, nous pas dormi. Priez tout Christ, c'est moi la vie. Ou c'est mon père qui bénisse, chaque fois que vous gardez, c'est soutenu, c'est pas pour que moi vérité.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89.5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Chez nous, une journée normale, ça ressemble à ça. On finit les devoirs au petit-déj, on file sous la douche. C'est la folie dans les transports en commun. C'est un peu la course. Mes parents, toujours sous l'eau, c'est de là. Bref, c'est sport. La routine, quoi. Et pour finir, petite soirée à la maison, tranquillou.
Homer, c'est plus de 350 campings villages en France et en Europe. Alors découvrez vos prochaines vacances en famille et en plein air sur homer.com. À très vite.
En direct de Bluffers Park, l'une des plus belles plages de Toronto. Un endroit très prisé les week-ends, surtout en été. Et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission en direct. Programmation estivale vibrante tout au long de l'été. On vous présente, comme toujours, la revue de presse et des magazines de nos médias partenaires, les grandes expos de l'été, le festival de musique et le festival TIFF Cinéma à Toronto. Et oui, j'ai quelques paires de billets pour vous, madame, monsieur. Vous m'écrivez à popourri@cut.fm.
Qu'est-ce qu'elle fait ici,
au juste? Je ne parle pas de français, I'm sorry.
No, that's okay.
La nuit se traîne,
et j'attends.
Son mari, il sait tout ce qu'elle est.
La nuit ne finira donc pas. La nuit est
bleue.
Des amoureux qui sont.
Blonde. Ça va être assez longtemps, c'est quoi la fin? Je suis en train de me faire rejeter par un quarantenaire de voix typique.
You really have everything to be happy.
When you choose a path, you don't get to see the other ones.
Je me sens bien ici.
Is this the end?
I really don't know.
Colonie. L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux.
Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains?
Ce sont des hommes comme vous et moi.
Mais comment vous voulez changer les choses ici en Algérie?
Ici comme ailleurs.
Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée.
Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous.
Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous.
Pas le droit de se défiler. Mais enfin, une chance que ça change ici.
Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution.
Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Moi, comme vous.
Fanon aurait eu 100 ans aujourd'hui. Le psychiatre, penseur, philosophe, auteur engagé est encore cité en exemple dans le monde entier et son œuvre fait réfléchir. Delphine Besse, Camille Monnier.
Un drapeau. En trois couleurs, toute la philosophie de Fanon, avocat de la décolonisation et de l'indépendance des peuples. De la Kanaky à la Palestine, le discours de Fanon est vivant.
Fanon a tracé une trace. Camarade Fanon, nous sommes là, nous sommes présents pour continuer le combat.
Dans l'assistance, un monsieur de 101 ans, ancien camarade de classe depuis 1928. Lucien se réjouit de la diversité du public intéressé, tous bords politiques confondus.
C'est donc qu'il arrive, Tom Beckman, à faire l'unité des Martiniquais autour d'une pensée qu'aucun homme, aucune femme ne rejetterait, c'est-à-dire la pensée anticolonialiste. Et au moment où le monde vit ce qu'il vit. Nous voyons très bien ce qui se passe aux États-Unis, à droite à gauche, en Afrique noire. Et nous voyons très bien que l'heure est arrivée à la décolonisation, non seulement physique, mais mentale.
Ce matin, l'enfance de Fanon est évoquée. Une famille aisée de 8 enfants, des parents autoritaires. Un garçon bien connu dans la rue Blénac pour son caractère bien trempé, son sens de la justice, et déjà une très grande culture pour un adolescent.
Fanon avec des connaissances culturelles que nous n'avions pas. Et il voulait nous ébrouiller et montrer aussi au professeur qu'il pouvait lui emboucher un couet. C'était son genre.
Sa nièce garde le souvenir d'un oncle vu pour la première fois en 1952, alors qu'elle avait 4 ans. Puis, une rencontre de hasard avec le livre Peau noire, masque blanc dans la bibliothèque familiale, alors qu'elle était adolescente.
Je dois dire que le choc a été de taille. Et la question a été, pourquoi on ne parle pas dans la famille de ce livre? Qu'a-t-il fait qu'il ne puisse être dit?
Meurtri par les préjugés sur sa couleur de peau. L'ancien dissident, parti se battre aux côtés de De Gaulle, trouverait-il le monde meilleur aujourd'hui?
Le débat sur le racisme est fort en France en ce moment, avec des positions fortes du gouvernement concernant l'immigration. C'est extrêmement désagréable d'entendre certaines choses aujourd'hui. Et donc la pensée de Fanon devait permettre d'alimenter un peu l'être au monde et l'être ensemble dans ce monde.
Si le mot engagement a son sens, c'est avec France Fanon qu'il le prend.
La parole de Fanon, qui prônait la lutte armée, demeure tabou dans de nombreux cercles. Son œuvre, tranchante, est incontournable.
Il découvre, tourne les pages, et pour certains, c'est la première fois qu'il croise France Fanon autrement que dans un manuel. Le penseur martiniquais s'invite aujourd'hui en librairie dans un format manga.
C'est une passerelle qui est très facile d'accès. Très facile d'accès, du coup, si on n'a pas envie d'ouvrir une encyclopédie ou de se dédier à un documentaire de plusieurs minutes, c'est un très bon moyen de découvrir le personnage.
Une passerelle pour mieux comprendre sans renoncer à la puissance du récit.
Le graphisme et tout est vraiment, vraiment sympa. Et puis ça a l'air d'être une belle, bien vulgarisée, facilitée pour aborder son histoire de vie qui est assez complexe.
Un pari réussi pour l'éditeur comme pour la librairie. Cette année, nous fêtons le centenaire de sa naissance et que c'est la première fois que nous avons un produit dans cette catégorie. Cet engouement pour le manga, c'est aussi lié à l'intérêt envers les grandes figures historiques noires et notamment martiniquaises qui sont méconnues du grand public et du coup ça donne une base sans forcément lire les œuvres originales. On s'approche en fait de la personnalité de France Fanon et on découvre qui il était. Intitulé « Les couleurs du combat », le manga retrace les multiples visages de France Fanon, soldat, psychiatre, éclaireur de la décolonisation. Un récit fidèle à l'intensité de ses luttes portées par le scénariste Olivier Méry en lien avec ceux qui l'ont connu de près.
C'était une excellente idée de la maison d'édition parce que cela permettait aussi de parler aux jeunes générations via un format moderne comme le manga. Et ça permettait de remettre un petit peu à jour cette pensée qui est toujours d'actualité avec tous les événements qu'on connaît. Pour ne pas trahir la pensée du manga, on a fait ça. On a conservé le sens de lecture japonais, on a mis des planches fortes, plus des petits pics émotionnels. On a conservé un sens de lecture aussi, on a essayé de simplifier le sens de lecture au maximum.
À 17 ans, France Fanon s'engage pour la France libre. En 36 ans, il bouleverse à jamais le regard sur le colonialisme et le racisme. Un héros sans cap, mais dont les mots résonnent toujours en noir, blanc et en bulle.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
J'ai faim pour de la musique, on va faire un pique-nique. Sortons les flûtes à bec, on va faire des sandwichs avec.
Je ne sais plus d'où vient cette chanson, mais je trouve qu'elle cadre parfaitement avec le mot du jour, pique-nique. Et oui, c'est l'une des grandes douceurs de l'été. Faire un pique-nique en plein air, quel bonheur. Un pique-nique avec Constant Trait d'Union, les deux sont acceptés. C'est un repas pris en pleine nature, dans un cadre champêtre, généralement sur l'herbe, avec les fourmis, oui. C'est peut-être la raison pour laquelle on dresse généralement une nappe sur laquelle on va disposer les plats, sandwichs, crudités, fruits, fromages, chacun son menu. Au départ conçu pour profiter du beau temps, le pique-nique c'est aussi un moment de partage et un moment convivial. L'art du pique-nique est très ancien, il remonte au Moyen-Âge, quand on mangeait dehors et par terre. C'était le cas notamment des paysans qui déjeunaient dans les champs avec leurs troupeaux, mais aussi des nobles durant leur partie de chasse. Avec le temps, la pratique s'est démocratisée, devenant de plus en plus populaire dans tous les milieux sociaux. On a même créé des aires à pique-nique au bord des autoroutes. Le mot, lui, est apparu plus tard, au début du XVIIe. On disait à l'époque faire un repas à pique-nique. Pique venant du verbe piquer, dans le sens de picorer, et nique qui est de l'ancien français et qui signifie une petite chose sans valeur. Le pique-nique était un repas où chacun apportait un plat ou payait son écho, sa contribution. La tradition s'est répandue en Angleterre, les Anglais empruntèrent notre mot pique-nique et lui donnèrent son sens actuel, un repas collectif pris en pleine nature. Aujourd'hui, que ce soit au bord d'un lac ou dans un parc, à la montagne ou à la plage, le pique-nique est l'occasion de profiter de la nature en partageant un repas. Là-dessus, je vous souhaite un bon moment et un bon appétit.
Bonsoir Linda.
Bonsoir Mohamed.
Vous donnez envie de danser, dis donc, soudainement. Heureusement que j'étais assis, hein.
Eh oui.
J'aurais dansé.
Ça y est, l'école est finie. Les entreprises commencent à tourner au ralenti. L'été est déjà bien amorcé, fait chaud. À nous les apéros, les grasses mats, les bains de minuit. Vous savez ce qu'on dit?
Non.
On dit que pour la plupart des gens, l'année se décompose en deux parties. Ah. Les vacances. Et l'attente des vacances. Eh ben, c'est parti, du moins pour les juilletistes. À partir de maintenant, vous pouvez bronzer, visiter ou simplement vous reposer. Les vacances, c'est fait pour ça. Savez-vous, Mohamed, d'où vient le mot vacances?
Pas vraiment.
Le mot vacances vient du verbe latin vacare, qui signifie être libre, inoccupé. Vacare. Dans l'Antiquité, à l'instar de l'empereur Adrien, les Romains, les plus riches, rejoignaient en été leurs maisons de campagne ou en bord de mer et cessaient leurs activités habituelles. Bon, tout le monde n'avait pas les moyens. Seule une minorité était concernée jusqu'à cette révolution, quelques siècles plus tard, dans le monde du travail, l'instauration des congés payés. D'abord 2, puis 3, puis 4, puis 5 semaines de congés annuels pour la France, qui fut l'une des premières à les mettre en place, ce qui permet au tourisme de masse de se développer et aux traditionnels chassés-croisés sur les autoroutes de se déployer. Avec le temps, les grandes vacances sont devenues un rituel pour la France, mais pas seulement. Dans la plupart des pays, mais même à Hong Kong, où les vacances ne durent que 7 jours par an, les vacances, c'est sacré, non, c'est pas beaucoup. Et d'ailleurs, vous savez ce que dit la science?
Non.
Alors, des études montrent que les vacances ne sont pas un luxe, mais un besoin essentiel.
Ouais.
Faire une pause dans son activité contribue à réduire le stress, améliore notre santé mentale et renforce notre système immunitaire. On a même démontré qu'après une seule semaine de repos, la qualité du sommeil s'améliore. À leur retour au travail, les salariés sont souvent plus créatifs, plus concentrés, plus productifs. Et ce n'est pas tout. Les vacances, Mohamed, ont non seulement une fonction de repos, mais aussi d'organisation du temps. C'est un moment où on réfléchit au bilan des mois écoulés et où on se prépare à repartir du bon pied. D'où cette impression qu'il ne faut pas rater ces vacances, car elles marquent le début d'une nouvelle année. Alors, si vous hésitez encore à planifier vos congés, lancez-vous, même sans bouger de chez vous. Considérez-les comme un investissement pour votre bien-être global. Maintenant, Mohamed, si vous me permettez, je vais prendre congé à mon tour.
Eh bien, bonnes vacances. Merci beaucoup, ma chère Linda.
Écoutez la planète chanter.
Salah,
oh, yeah,
Salah,
Torokochi. le rappel à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adrabène leur posa, adrabène leur posa, ding et don.
Non, ding et don.
Écoutez la planète chanter.
France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Les bijoux de pacotille, c'est ce qu'il reste à Céline Mia Baumgartner de ses parents, disparus tous les deux dans un accident de voiture quand elle avait 8 ans. De ce drame, elle a tiré un roman et une pièce de théâtre, mise en scène par Pauline Bureau, et toutes les deux seront mes invitées à partir de 13h. Mais dans les midis, vous le savez, la critique passe avant toute chose. Au programme aujourd'hui, deux romans de ce printemps, Toronto d'Elisabeth Benoît aux éditions POL, et La vie continuée de Nelly Arcan par Joanne Rigoulot aux éditions Les Avrils. Vous écoutez les Midi de Culture, bienvenue à toutes et à tous. Et pour débattre autour de cette table, Johan Farber, éditeur, essayiste, critique littéraire, bonjour.
Bonjour Marie.
Pierre Benetti, co-directeur éditorial du journal En Attendant Nado, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Toronto, c'est donc le titre du roman qui nous occupe maintenant. Et c'est cette ville qui revient dans les conversations entre Johnny Depp et Amber Heard, rendue publique lors du premier procès qui a opposé les deux ex-époux. Sur ce qui s'est exactement passé là-bas entre les deux stars qui s'accusent mutuellement de violence, on ne saura rien. Mais c'est alors le début d'une sorte de folie collective qui s'empare d'Internet et des réseaux sociaux. Les mouvements féministes défendent Amber Heard et Johnny Depp est soutenu par des masculinistes zélés. De cette matière explosive, la romancière québécoise Elisabeth Benoît fait un roman nourri des procès-verbaux, mais aussi des conversations en ligne, des textos dévoilés, etc. L'autrice assume par ailleurs parfaitement sa fascination pour le sordide de l'affaire. On commence avec un avis rapide, Pierre Benetti.
C'est un livre désarçonnant qui demande une sorte de gymnastique pour le lire et de trouver un peu un mode de lecture. C'est pas facile du tout. Et à la fin, j'ai pensé que c'était un livre très ironique, bourré de choses trappes qui sont peut-être celles de la narration. C'est pas sans poser des difficultés politiques et éthiques d'un point de vue féministe. Mais je garde un avis finalement moins dur que ce que j'avais au départ de ma lecture. Voilà.
Johan Farber.
Moi j'avais une lecture plutôt bienveillante. J'avais un parti pris bienveillant parce que j'avais beaucoup aimé son premier roman, Suzanne Travolta. Et puis au fur et à mesure de la lecture de Toronto, j'ai été assez perplexe par les partis pris et à la fin carrément consterné parce que je pense que c'est un roman qui s'est laissé piéger par le discours masculiniste. C'est un roman en fait masculiniste qui entre dans un dispositif de backlash et c'est aussi un roman qui pose des questions politiques comme l'évoquait Pierre, notamment une fascination tout à fait malaisante autour des ultra-riches qui n'est jamais questionnée ni remise en cause.
Alors on va continuer à discuter, je pense qu'il y a du pain sur la planche, mais d'abord on écoute un passage de Toronto qui est lu par Auriane Delacroix.
J'étais tombée par hasard sur cet article en une du journal en ligne Le Monde. Le titre semblait être celui d'un journal à sensation. Drogue, jalousie, avais-je lu, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur, alors que j'hésitais à cliquer sur le lien et que je maudissais mon satané penchant pour ces histoires de vedettes, dans le fond, toujours terriblement ennuyeuses. J'étais en réalité incapable de résister à ce genre d'histoire, du moins à certaines de ces histoires. Je ne m'intéressais pas, Dieu merci, à toutes ces histoires, m'étais-je dit en mâchouillant un énième bonbon mou à la menthe, et j'avais cliqué sur le lien en soupirant. L'eau bouillait dans la cuisine, j'avais mis un minuteur pour ne pas oublier la casserole sur le feu. Le Monde résumait en quelques dizaines de lignes les démêlés judiciaires de l'acteur Johnny Depp, qui poursuivait le tabloïd de Sun en diffamation. Pas un représentant du Sun n'était cependant venu témoigner au procès qui avait eu lieu au même moment à Londres où Johnny Depp et son ex-femme, l'actrice Amber Heard, lavaient leur linge sale en public. Drogue, alcool, médicaments, cure de désintoxication, île privée aux Bahamas, jalousie maladive, doigts coupés, médecin personnel, étron sur le lit conjugal, etc., etc. Il suffisait de lire l'article du Monde pour être saisi sur le champ par le côté presse à sensation de cette histoire.
Voilà, Toronto d'Elisabeth Benoît-Pierre Benetti. Vous disiez que c'était un roman difficile à lire, ça demandait une gymnastique. En quoi ? Parce que là, ce qu'on entend, on n'a pas l'impression.
Alors, premièrement, c'est un roman très long. Hein. Ouais. Faut quand même affronter un livre de 500 pages composé majoritairement de transcripts de procès-verbaux, dont on ne sait pas, et ça, c'est une première difficulté, dont on ne sait jamais s'ils ont été retouchés. C'est-à-dire que le pack de lecture général au départ du livre, il est un peu trouble, ce qui est le propre de la fiction, et l'éditeur a pris soin de nous préciser que c'est un roman en couverture. Bon, première difficulté, c'est la longueur, et puis ce gros problème aussi de factualité, quoi, disons. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est que les procès-verbaux ou les auditions des témoins dans les deux procès de l'affaire vont être intercalés avec des parties qu'on vient d'entendre de la narratrice qui commente son enquête sur les réseaux, qui va en plus de ça ajouter d'autres témoignages. À mon sens, ce sont les parties les plus réussies. Moi, j'ai frôlé quand même l'overdose ou l'indigestion, pour pas faire de jeu de mots avec toutes les drogues dont on entend parler dans le livre. À mon sens, ça devrait être bien plus développé comme type de narration, parce qu'on entre vraiment dans le cerveau, et peut-être qu'on va en débattre avec Johan. On entre quand même dans l'esprit de quelqu'un qui suit cette affaire derrière un écran, et donc il y a une série d'écrans. C'est un livre qui propose une série d'écrans vis-à-vis d'une réalité qui n'est finalement quasiment que fantasmatique, qui passe par tous ces écrans de commentaires sur les réseaux sociaux et de tous les commentaires à la fois des professionnels, des journalistes et du Kidam. Voilà. Bon, donc ça demande quand même une sorte de présence à la lectrice ou au lecteur. Qu'on n'a pas forcément l'énergie toujours de donner. Et une dernière difficulté à laquelle moi je me suis confronté, c'est que je me suis rendu compte quand même que j'avais finalement peu de repères factuels sur l'affaire en elle-même, et que j'avais des repères sur les discours et commentaires qui sont globalement composés de discours masculinistes, puisqu'à la fin, cette affaire a été perdue. Enfin, faut quand même le rappeler, ce procès a été quand même perdu par Amber Heard, et qui a gardé une image générale de quelqu'un qui se serait fait passer pour une victime. Et c'est vrai que c'est le point de vue qui est adopté tout au long du livre.
Mais vous y avez vu de l'ironie?
Alors, à mon sens, c'est un livre en fait profondément ironique qui utilise finalement la narration d'enquête, l'exposition des voix. Hein, on est habitué à ça. Enfin, ça peut faire penser au travail de Svetlana Alexievitch dans un tout autre genre, ou par exemple de Sophie Divry. Donc ça, c'est des techniques littéraires qu'on utilise beaucoup, et c'est un art du montage. Et le montage, à mon sens, nous fait entendre ce point de vue masculiniste pour le mettre à distance. Je pense pas qu'elle se l'approprie, Elisabeth Benoît.
Alors, Johan Farber, pas du tout la même lecture, si j'ai bien compris.
Bah non, mais j'étais dans exactement le même questionnement que Pierre, c'est-à-dire que j'étais d'ailleurs très heureux que la littérature s'empare d'un fait de tabloïd, et puis comme elle le dit tout de suite, les journaux, c'est pas seulement les journaux à sensation qui se sont emparés de ça, puisqu'elle ouvre l'extrait qu'on a entendu ensuite par Le Monde. Donc en fait, c'est assez sérieux, et elle s'est très justement dit que ça fournissait une matière littéraire assez intéressante, sauf que le problème que moi j'ai tout de suite vu, c'est effectivement un problème factuel, et puis en fait ce sont déjà des discours fabriqués, c'est-à-dire que ce qui n'est jamais interrogé, et là pour ma part je pense qu'il n'y a pas d'ironie, c'est que les discours tels qu'ils sont peut-être retranscrits sont des discours qui sont déjà fictionnalisés par les masculinistes. Donc on ne connaît pas très bien les sources. À un moment, vers la page 150, elle fait son coming out pro-Depp. Elle dit « je suis pro-Johnny Depp ». Ça veut dire qu'elle est du côté de tout...
La narratrice.
La narratrice, oui. C'est-à-dire qu'elle est du côté, effectivement, de tout ce qui est... Elisabeth Benoît prend, ou la narratrice, prend parti pour Johnny Depp. Sauf qu'il faut savoir que le masculinisme, c'est quand même une narration. Et le masculinisme, c'est déjà du storytelling. Et qu'est-ce que c'est le masculinisme ? C'est une masculinité, en fait, du ressentiment. Et donc, c'est un sentiment de revanche. Et donc, pour asseoir ce sentiment de revanche, il y a le déploiement d'un storytelling. Et c'est toujours un storytelling en deux temps. Le premier temps de ce storytelling, c'est toujours, en fait, la construction d'une délégitimation de la parole féminine. Et là, cette délégitimation de la parole féminine, pour moi, elle annule, en fait, toute possibilité d'ironie, parce que, sur 500 pages, Amber Heard ne prend la parole que
c'est
cinq
ça.
Fois.
C'est ça.
Et
ça,
Johnny Depp.
C'est l'énorme problème du livre.
Voilà. C'est l'énorme problème du livre. Et chaque fois qu'elle prend la parole, elle est délégitimée par la suite par les employés de Johnny Depp. Et à aucun moment, ce rapport hiérarchique contractualisé à Johnny Depp n'est interrogé. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de cette délégitimation, il y a une désinformation. C'est ça le storytelling en fait masculiniste, c'est à la fois délégitimation et désinformation. Et là, on est en plein dedans. Pour moi, j'ai été vraiment très mal à l'aise et assez consterné de voir qu'en fait, ici, en plus, ce procès a eu le procès du procès. Il y a eu, quasiment 2 ans, un excellent documentaire sur France 5, sur la fabrique du mensonge, sur la manière dont les masculinistes et dont les avocats de Johnny Depp se sont précisément servis de toute cette horde numérique pour attaquer Amber Heard et la décrédibiliser. Quand on regarde les sources, puisque c'est sourcé, c'est une enquête, hein, mais c'est une enquête vraiment à charge, une enquête vraiment qui a trouvé sa coupable avant même de commencer à disposer des indices, on remarque qu'il n'y a pas, en fait, ce documentaire. Or, comme on le comprend, le livre a été rendu en 2024, le documentaire existait déjà. Donc, en fait, sous une apparente neutralité, il y a quand même des choix qui sont faits et des choix qui sont vraiment à charge. Dans le roman dont on va parler tout à l'heure, La vie continuée de Nelly Arcand, il y a 4 pages qui sont consacrées au procès Amber Heard et Johnny Depp. Et dans ces 4 pages, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus fort que dans ces 500 pages de Toronto. Et pourquoi ? Parce que, Joanne Rigoulot trouve une formule qui, à mon sens, convient très bien à Elisabeth Benoist, c'est-à-dire qu'elle participe de ces femmes qui veulent conserver un ordre immobile. Et moi, ça me met vraiment mal à l'aise, parce que j'avais beaucoup aimé son premier roman, et je trouve que là, il y a un problème politique de fond, que le procès du procès n'est pas examiné, et que ce masculinisme, en fait, est reconduit dans ce moment que les féministes appellent le backlash, et qu'on pourrait traduire ici, en fait, de contre-révolution. C'est pour moi, c'est très embêtant de le dire, c'est un roman contre-révolutionnaire, un roman qui s'est posé des questions à partir de Johnny Depp et a donné des réponses tout en essayant de maintenir une neutralité de bon aloi qui est en fait un choix politique délétère.
Pierre Benetti.
Mais c'est quand même une fausse neutralité, c'est-à-dire qu'on est dans, on est dans un artefact littéraire qui au tout début, enfin les 100 premières pages pour tout dire, où on accumule quand même les témoignages en effet d'employés. Alors par ailleurs, je fais une petite précision, c'est que sur 500 pages, il faut toujours se rapporter à la liste des personnages du début pour savoir qui parle. Donc on est en tant que lecteur exposé à un déversement de discours, on ne sait jamais qui prend la parole. Au bout d'un moment, on les repère quand même, mais bon, voilà, hein, je préviens, mais c'est très difficile de s'y repérer. Donc, je disais qu'on est quand même dans un artefact de neutralité, c'est-à-dire que derrière l'apparence de neutralité documentaire, on nous montre, ce livre nous montre les discours masculinistes à l'œuvre et nous montre la réduction du témoignage d'Amber Heard, en gros, la parole d'une sadique manipulatrice qui est finalement la coupable de l'affaire. Donc ça, moi, je suis un peu étonné
justement, produit pas juste l'effet voulu qui serait d'un écœurement face à ces discours masculinistes.
Alors, en effet, ça a produit de l'écœurement au début. À mon sens, quelque chose comme il y a une violence dans ce livre. Il y a vraiment il y a la production d'un discours violent. Ça, c'est clair. Au fur et à mesure de la lecture, étant donné qu'il y a quand même la place très importante de cette narratrice, hein, y a pas que les procès-verbaux, cette prise de parole, elle nous aide quand même à comprendre qu'on est devant quelqu'un qui est en train de monter des témoignages, qui est en train de faire un dossier.
Cette narratrice, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait?
C'est une pro-Depp derrière son écran, comme il en existe beaucoup. Ce qui n'est pas Elisabeth Benoist. Enfin, je pense que, ou alors, elle est rentrée dans, je pense qu'on est à un niveau de friction entre la narratrice, l'autrice, la fiction, la réalité, qui est quand même passionnant. Enfin, moi, je pense que niveau-là de confusion est très intéressant, littérairement, et puis pour comprendre la société dans laquelle on est. Moi, j'avais jamais lu, en fait, un livre qui se mettait à cette place-là et qui nous présente comme une archive quelque chose qui est finalement dans notre contemporain. Enfin, on dirait que le monde va tellement vite qu'on est déjà devant une histoire, une histoire ancienne. Donc, cette narratrice, elle est très peu située, si ce n'est une place derrière un écran, quelqu'un qui devient obsédé, non pas par l'affaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle précise qu'elle est obsédée par la manière dont Amber Heard manipule tout le monde. C'est ça qui l'obsède. Ce qui est un point de vue masculiniste, mais c'est un point de vue de fiction. C'est-à-dire que là, on joue, la fiction joue avec le documentaire. C'est, oui. Ça, c'est, on est en train de.
Johan Farber n'est pas d'accord là.
Non, je suis pas d'accord parce que, enfin, je suis pas d'accord. Je suis totalement d'accord avec Pierre Benetti sur toutes ces questions. Effectivement, tout le passage, tous les passages où elle interroge finalement la fabrique même de son livre sont les passages les plus réussis parce que là, on retrouve vraiment une série de questionnements, mais vers la page, vers avant la page 200, vers la page 150, quand elle fait ce que j'appelais tout à l'heure son coming out Prodep, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle choisit délibérément d'orienter sa vision des choses qui est masculiniste. Et la question du montage, pardon, mais pour reprendre une expression de Serge Danet, c'est un montrage. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté, on a quand même une romanticisation de la figure de Johnny Depp, qui est toujours une pauvre victime, et quand même, céder la parole.
Il manque un contrepoint de vue.
Bah, il manque un contrepoint de vue. Je veux dire,
ça, mais l'énormité de sa démonstration fait pas justement contrepoint?
Moi, personnellement, je ne trouve pas parce que systématiquement, on est vraiment dans le rabaissement d'Amber Heard. Il y a tout au début du livre, il y a tout un questionnement sur les bleus qu'elle a eu et sur le maquillage. Et en fait, ce livre-là, c'est vraiment un livre de violence qui rejoue une certaine violence masculiniste parce qu'on la démaquille constamment et elle est toujours traitée comme une suspecte, alors que Johnny Depp est toujours traité comme une victime. Et d'ailleurs, on le voit bien dans l'ensemble du livre, il manque pour moi cette question du procès, et je pense que le montage est en soi quand même un acte qui décide d'un sens à imprimer et à donner, et qui, moi, je dirais, ça m'a laissé perplexe. Ça m'étonne, en fait. Voilà,
un dernier mot, Pierre Bétard.
Bah, on est vraiment au cœur de problématiques littéraires passionnantes, parce que quand le montage est fait par un personnage, par une narratrice... Que croire? Enfin, là, c'est l'ouverture de la fiction. C'est-à-dire que c'est toutes les possibilités d'interprétation qui sont ouvertes. Alors, à mon sens, ce livre ne trouve pas une forme qui permettrait, et peut-être que j'aurais aimé, moi, personnellement, que dans les parties au jeu, il y ait un contrepoint. C'est-à-dire, c'est pas possible d'invisibiliser à ce point-là, en fait, les victimes qui se présentent comme victimes, surtout avec deux procès qui ont été déjà des très grandes violences pour elles. Voilà. Cette forme n'y parvient pas.
Toronto d'Elisabeth Benoît aux éditions POL qui était sortie le 6 mars.
Nos amis d'Apéro Chic vous invitent chaleureusement à Saint-Tropez le mercredi 20 août de 18h30 à 23h. Ça promet. Soirée glamour en blanc sous les étoiles de Cabana Pool Bar qui vient d'être rénovée. Une paire de billets à la première personne qui m'écrit à popourri@cit.fm. Tous les détails sur popourrishow.com. Rendez-vous à Saint-Tropez le 20 août. Soyez-y.
Fun Radio.
Enjoy the music.
Écoutez, ça, c'est Fun Radio.
On est en direct dans toute la France, les amis, la Grand Arena, comment ça va? Les gens qui sont au boulot, dans la voiture, qui nous écoutent. On est parti pour les amis, qui s'appellent Matt, on le retrouve dans la sœur, tous les soirs du lundi au jeudi. Les gens qui sont au boulot, dans la voiture, qui nous écoutent. On est parti pour les amis, qui s'appellent Matt, on le retrouve dans la sœur, tous les soirs du lundi au jeudi, 22h minuit. Je m'appelle Nico, c'est le week-end, on se retrouve pour partir, bonne tout le monde. La fosse est déjà remplie, c'est noir de monde, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête avec nous ce soir? On y va? Je m'appelle Nico C. Welcome on board!
Nico C. et Matt.
Au platine.
We'll be right back.
petit kiff. La Corinna, bonsoir, comment ça va? Tu vois?
Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and did it all way here. Now they keep it, spread it across the country. Here we go back, this is the moment.
Oh, he's so cool.
This night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us.
C'est le début du week-end, les amis. C'est sorti de mon C6. La soirée va être réussie ou pas. C'est maintenant qu'il va falloir tout donner, les amis. Tout le monde. Tout le monde. Ça fait. On peut faire mieux. Encore. Une dernière fois. Ça fait.
Il s'appelle Miko C, vous le retrouvez tous les vendredis et samedis soir dans Party Fun. Faites du bruit pour lui! D'accord, Arena, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Fun Radio Ibiza Experience! Je répète ma question. Are you ready?
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
I grew up in front of my TV, in front of my VCR in Brampton, Ontario. So to meet Tiff is like the coolest thing ever.
Oh, that's so great.
And it's going to be my first year as a member. Amazing. So can you give me like some tips so I don't do it wrong?
All right, so you're a member. So you're walking off the time to see the festival.
Yes.
Yes? Okay, great. Good. Go through the list of films, find the ones that you love, and then never forget to choose something you know nothing about. You don't know the director, you don't know anybody in it. Find from a country you've never seen a movie from before. Make sure you see at least a couple of those.
What is this place?
Qu'est-ce que fait ici, Bruges?
Je ne parle pas de français. I'm sorry.
No, that's okay.
La nuit se
traîne. Son mari, il sait tout ce qu'elle est.
La vie ne finira donc pas. La vie est
fleuve.
Des amours qui s'en vont. Main dans la main.
C'est ta blonde? Ça va-tu rester longtemps? C'est quoi la femme? Je suis en train de me faire rejeter par un quarantenaire de voix typique.
You really have everything to be happy.
When you choose a path, you don't get to see the other ones. Je me sens bien ici. Is this the end?
I really don't know.
Tina! Are you okay?
How do you
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Pourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto. De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Devoir de mémoire. Décoloniser la mémoire. Le 23 août, souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous avons le plaisir de recevoir un nouveau partenaire, Image Création Interprétation, un centre culturel de Montréal regroupant des artistes passionnés qui ont à cœur de mettre en avant les arts de la scène. Et il nous invite à la 5e édition du Festival du Souvenir, qui se déroulera du 14 au 23 août au quartier Ahuntsic à Montréal. Le festival fut institué à Montréal en 2020 pour souligner la date de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée chaque année le 23 août par l'UNESCO. Le Festival du Souvenir offre au public une semaine de réflexion et d'activités culturelles sur la mémoire de l'esclavage et la culture des peuples racisés. Du 23 au 30 août, rejoignez-nous pour célébrer la mémoire à travers des expositions, projections de films, des conférences inspirantes, des rencontres interculturelles et des émissions spéciales sur CUT 89,5 FM. Et cette année, Monsieur France Benjamin, écrivain, poète et homme politique profondément enraciné dans le monde culturel, assumera le rôle de président d'honneur. À ses côtés, Madame Chantal Ismay, féministe, militante politique, sociologue, urbaine et chercheur communautaire, assumera avec conviction le rôle de porte-parole de cette 5e édition résolument tournée vers la justice historique et la revalorisation des mémoires marginalisées. La présence de ces deux personnalités inspirantes promet une programmation vibrante, porteuse de sens et d'engagement. Le Festival du Souvenir, 5e édition, à retrouver sur www.ici-theatre.ca ou popourrichaud.com. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourrichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Au Pourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux. Eh oui, nos amis du Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le Créfaux, ont le plaisir de vous présenter la cinquième saison. Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Avec la soif d'apprendre, un membre du Créfaux s'assied avec universitaires, artistes ou étudiants pour aborder des enjeux de société de petite ou de grande taille. Cette cinquième saison est animée par Amal Madibo, professeure agrégée et directrice adjointe du département de justice sociale en éducation à l'Institut d'études pédagogiques en éducation de l'Université de Toronto. Ses recherches se penchent sur les études noires, la francophonie, l'immigration et la race et l'antiracisme en Afrique. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf, les cafés du Créfaux. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur oisi.utoronto.ca/fr/Créfaux ou tout simplement popourichaud.com. Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Chaud et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Pour la rentrée 2025 à 2026, Popourri Chaud confirme son ambition de rester une référence incontournable de la francophonie d'ici et d'ailleurs. 2025-2026, des nouveautés, des débats, des coups de cœur, des coups de gueule, de nouvelles voix et du renfort avec les podcasts du Créfaux. Et rendez-vous de Ciné Franco, les projets et initiatives visant les communautés immigrantes francophones de la région de Welland et du Niagara, avec nul autre que Sophie Franc. Les projets de Français du Monde Toronto, les rendez-vous et nouveautés littéraires de la communication et les éditions Prise de Parole. Le journal d'Haïti et des Amériques avec RFI et France 24, les visites guidées du Musée Royal de l'Ontario, la playlist de nos DJ et de Tolalito Music, et les enjeux et défis de la francophonie et de l'intelligence artificielle. Singulière et plurielle, Popourri Chaud assume son rôle de repère dans un contexte d'incertitude démocratique. Plus de détails sur popourrichaud.com. Et si vous souhaitez être parmi nos partenaires, une seule adresse, popourri@cut.fm. Et pour vous donner une idée de ce que vous attend 2025-2026 sur notre antenne, en voici un extrait.
Il y a un temps pour célébrer et un autre pour s'indigner. Mais en période d'extrême tension sur la scène internationale, comment tracer la ligne entre les deux? C'est la question qui déchire actuellement le festival Fierté Montréal qui commence aujourd'hui. Kevin Crane Desmarais.
Quelques heures avant le lancement de Fierté Montréal, l'organisation a choisi de se positionner publiquement sur le conflit israélo-palestinien.
On a toujours été contre les violences faites aux gens, contre les génocides, puis évidemment pour la préservation de la vie.
Ce n'est pas tout. Mercredi, Safia Nolin a annoncé annuler sa participation à Fierté Montréal en raison de la présence de GAVA, un groupe LGBTQ+, juif qu'elle qualifie de sioniste, c'est-à-dire favorable à l'existence d'un État juif en Israël. Quelques heures plus tard, Fierté Montréal a exclu GAVA et le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, CIJA, du défilé.
C'est une décision bidon et niaiseuse.
La décision a été mal accueillie par le CIJA. Un membre du CA de Fierté Montréal se défend.
Certains groupes qui ont tenu des propos qui malheureusement ne cadrent pas avec la politique qu'on a mis en vigueur par rapport aux propos haineux, belliqueux, transphobes, sérophobes, etc.
Selon le CIJA, Fierté Montréal fait référence à un article de journal juif canadien qui rapportait que de nombreux juifs se sentent mal à l'aise dans certains espaces LGBTQ+, en raison de présence de personnes pro-Hamas.
La question adulte
à faire, c'est de revenir sur cette décision qui fait mal à l'image du mouvement LGBTQ+ au Québec, aux valeurs d'inclusion. Toute personne doit être libre d'afficher qui elle est, d'afficher son identité. En ce moment, on a une opposition, un antisionisme qui est de l'antisémitisme.
La décision prise par Fierté Montréal suscite de nombreuses réactions.
À mon avis, c'est pas une entité politique, Fierté Montréal, donc il devrait pas se mêler de ça.
Rien à voir non plus avec l'orientation sexuelle. Fait que si c'est des groupes qui sont là pour favoriser l'inclusion des LGBT dans la communauté israélienne, c'est ça, c'est un peu délicat de lui dire, ben là, vous pouvez pas participer parce qu'il y a le conflit.
Le cabinet de la mairesse Valérie Plante a décliné notre demande d'entrevue. Rappelons également que Fierté Montréal exclut les policiers de son défilé.
Et même s'il pleut, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots, la Côte d'Azur à Saint-Malo.
Mesdames et messieurs, bonjour. En direct de Bluffers Park, l'une des plus belles plages de Toronto, un endroit très prisé les week-ends, surtout en été. Et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission en direct. Programmation estivale vibrante tout au long de l'été. On vous présente, comme toujours, la revue de presse et des magazines de nos médias partenaires, les grandes expos de l'été, les festivals de musique et le festival TIFF Cinéma à Toronto. Et oui, j'ai quelques paires de billets pour vous, madame, monsieur. Vous m'écrivez à popourri@cut.fm. Les événements culturels, les histoires et les potins de monsieur et madame Ledoux seront au menu tout au long de l'été. Et les humoristes qui mettront leur grain de sel et une bonne dose de boisson rafraîchissante des tropiques. Et oui. Nos amis d'Apéro Chic vous invitent chaleureusement à Saint-Tropez le mercredi 20 août de 18h30 à 23h. Ça promet, soirée glamour en blanc sous les étoiles de Cabana Pool Bar qui vient d'être rénovée. Une paire de billets à la première personne qui m'écrit à popourri@cut.fm. Tous les détails sur popourrishow.com. Rendez-vous à Saint-Tropez le 20 août. Soyez-y! La Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée par l'UNESCO chaque année le 23 août, fera partie de nos prochaines émissions en partenariat avec le Centre culturel Images, Création, Interprétation, ici, basé à Montréal. C'est tout un honneur de travailler avec eux dans le cadre de leur 5e édition. Festival Souvenir du 14 au 30 août à Montréal. Nous entendrons la voix de la porte-parole, Madame Chantal Ismay. Plus de détails sur www.ici-theatre.ca ou popourrichaud.com. Et pour la petite histoire, pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de la dramatique traite transatlantique des esclaves. L'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. L'esclavage est aboli le 1er août 1834 dans la plupart des possessions britanniques, Caraïbes, Afrique du Sud et Canada. Africville, à la Nouvelle-Écosse au Canada, a été désignée comme lieu de mémoire lié à l'esclavage par l'UNESCO.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Il est 13h en temps universel, 2h de plus à Paris, 9h à Port-au-Prince.
Clotilde Dumais.
RFI midi, dernière demi-heure sur le continent américain et en Haïti où 9 personnes ont été enlevées dans un orphelinat ce week-end à Kinskoff. Le maire de la ville, Jean Massillon, demande aux autorités d'agir face à la violence qui s'installe.
Je lance un message d'unité aux différentes personnes responsables d'assurer la sécurité des vies et des biens pour qu'ils puissent développer une synergie, de prendre leurs responsabilités.
Interview à écouter en entier dans une dizaine de minutes. Au Chili, les 5 mineurs portés disparus après un effondrement dans la plus grande mine de cuivre souterraine du monde ont été retrouvés morts. Le président Boric a décrété 3 jours de deuil national. Précision à suivre avec la correspondante de RFI sur place. L'actualité des Outre-mer dans un gros quart d'heure avec vous, Benoît Ferrand. Et à la une, ce fléau apparu il y a 14 ans sur les côtes des Petites Antilles et qui ne s'est plus interrompu depuis.
Et oui, ce fléau, c'est bien sûr l'arrivée des algues sargasses, un déferlement qui ne diminue pas ces derniers mois, bien au contraire. C'est ce que nous dira tout à l'heure Peggy Robert de la Première Guadeloupe.
Et à tout à l'heure, Benoît.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
C'est une nouvelle illustration de la violence qui gangrène Haïti. À Kinskoff, 9 personnes ont été enlevées ce week-end à l'orphelinat Sainte-Hélène. L'établissement accueille environ 270 enfants, dont une cinquantaine vivant avec un handicap. Parmi les victimes, une ressortissante irlandaise, responsable de la section réservée aux enfants à mobilité réduite, une infirmière et un enfant de 3 ans. Une attaque sans précédent qui choque profondément la population. Aucune revendication ni demande de rançon n'ont été formulées. Le maire de la commune, Jean Massillon, lance un appel urgent aux autorités pour prendre des mesures concrètes et arrêter cette spirale de violence qui s'installe dans sa commune depuis le début de l'année. Jean Massillon, interrogé par le correspondant de RFI à Port-au-Prince, Peterson Luxama.
Jean Massillon, bonjour. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Kinskoff dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août?
Les bandits ont fait éruption au niveau de l'orphelinat, nos petits frères et sœurs, situés tête bois peint, où ils ont enlevé environ 9 personnes, dont le responsable des personnes à mobilité réduite. Parmi ces personnes séquestrées, on trouve un petit garçon de 3 ans. Ils sont rentrés sans même faire un coup de feu. Et ils ont kidnappé les gens, ils partent avec les gens. Jusqu'à maintenant, la situation est vraiment triste au niveau de la commune de Kinskoff. C'est une situation très, 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 très alarmante. Nous déplorons cette attaque et nous demandons aux autorités compétentes de prendre en main leurs responsabilités.
Avez-vous des informations précises sur les personnes qui ont été enlevées? Peut-on déjà identifier la victime?
Madame Gina, c'est une étrangère qui se donne âme et corps pour aider les petits-enfants et surtout ceux qui sont à mobilité réduite. On a enlevé un enfant de 3 ans aussi. Il y a aussi des membres du personnel de soutien travaillant avec elle. Il y a une infirmière aussi qu'on a enlevée. Nous envoyons nos sympathies et pourquoi pas nos supports avec la congrégation. On continue à réclamer la libération de ces personnes afin qu'ils puissent retrouver leur famille et puis pourquoi pas continuer à donner les services à la population.
Depuis quand l'orphelinat, nos petits frères et sœurs, Sainte-Hélène, est-il implanté à Kinskoff? Et quel rôle joue-t-il dans la vie de la commune?
L'orphelinat est implanté dans la zone depuis 1988. Ça fait environ 37 ans que l'orphelinat offre des services à la population. Ça a facilité l'offre de beaucoup d'emplois au niveau de la communauté. Et puis, ça a facilité aussi l'installation d'une école au sein même de l'orphelinat qui a aidé beaucoup de parents au niveau de la commune à trouver un moyen pour envoyer leurs enfants à l'école.
Quelles actions attendez-vous de l'État pour résoudre une fois pour toutes cette insécurité persistante à Kinskoff?
Je lance un message d'unité aux différentes personnes responsables d'assurer la sécurité des vies et des biens de la population, les membres du Task Force, les membres des forces armées d'Haïti, les policiers et policières, et pour qu'ils puissent développer une synergie, de prendre leurs responsabilités afin de sécuriser l'espace et de sécuriser les enfants, de sécuriser les employés et pourquoi pas de reprendre le contrôle total des espaces sous le contrôle des bandits, parce que ça fait 6 mois et quelques jours depuis que la population vit dans une situation vraiment, vraiment difficile. Ils sont obligés de fuir leur maison, de fuir leur habitation. On a tué leurs enfants, on a tué leurs parents, on les a décapitalisés. Alors maintenant, c'est l'heure pour que les autorités puissent faire ce qui est à leur possibilité pour pouvoir permettre à la population de retourner chez eux.
Le maire de Quinscoff, Jean Massillon, interrogé par Peterson Luxama. Toujours en Haïti, les malades du cancer et plus généralement toutes les personnes souffrant d'une infection chronique ont beaucoup de mal à se soigner. Bonjour Marine de la Moissonnière.
Bonjour.
Le Miami Herald consacre un long article à cette situation dramatique.
Oui, le Miami Herald raconte l'histoire de Jean Fritz Dieu, habitant de l'île à Vache dans la baie d'Écaille, qui est mort ce week-end après s'être battu contre le cancer pendant 4 ans. Pendant un temps, il a pris un bateau, puis le bus pour se faire soigner à Port-au-Prince. Il a ensuite fait la route en moto. Il lui fallait alors jongler avec les péages des gangs, les fusillades et les barrages policiers, détaille le journal. Puis quand les gangs ont coupé la dernière route allant jusqu'à la capitale haïtienne, l'homme de 42 ans a pris un bateau. Et quand la chimiothérapie n'a plus fait d'effet et que Jean-Fritz Dieu a eu besoin de radiothérapie, alors l'homme est allé se faire soigner en République dominicaine grâce à une ONG, alors que la radiothérapie reste une part importante dans le traitement du cancer. Il n'y a plus aucune machine en Haïti depuis plus de 20 ans, explique le quotidien américain. En mars dernier, raconte encore le journal, les gangs ont attaqué Mirbalé, entraînant l'évacuation de l'hôpital de la ville, l'établissement de santé le plus moderne d'Haïti, tandis que 40% des hôpitaux et cliniques de Port-au-Prince ne fonctionnent plus.
Le manque de moyens s'ajoute donc la distance à parcourir pour se faire soigner, et puis le coût, bien sûr.
Et oui, car bien souvent, il faut aller dans des établissements privés ou se rendre à l'étranger. Mais même si on a de l'argent pour aller à Cuba ou en République dominicaine, comme le faisaient auparavant les Haïtiens, c'est désormais quasiment impossible, explique le Miami Herald, car il n'y a pas de vol direct vers Cuba et les frontières avec la République dominicaine sont fermées. La seule solution, ce sont donc les visas humanitaires, raconte un médecin interrogé par le journal. Mais là encore, c'est vraiment très compliqué. Bonne nouvelle, malgré tout, dans ce panorama si triste. Et c'est une première. Avant-hier, un service d'oncologie a ouvert dans une clinique privée au CAI.
Et on poursuivra cette revue de presse avec vous, Marine, dans un instant. C'est l'arbre symbole du Canada, l'érable, maple en anglais, et c'est d'ailleurs ce qui inspire le nom d'un drôle de phénomène, le maple washing, une pratique bien canadienne, mais pas forcément très honnête. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit avec vous, Nafia Libert, correspondante de RFI au Canada. Alors de quoi parle-t-on précisément?
Le maple washing, c'est en fait une forme de marketing trompeur. Le procédé suit un peu le même principe que le greenwashing. Vous savez, quand des entreprises font croire qu'un produit est écologique alors qu'il ne l'est pas vraiment, sauf qu'ici, l'idée c'est de faire passer des produits étrangers, des produits importés, pour des produits canadiens. L'objectif, lui, reste le même, vendre plus et plus cher. Je vous laisse entendre là-dessus Sylvain Charlebois, c'est un spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie.
En fait, on appelle ça en français de l'ERA blanchiment, du maple washing. Et puis, dans le fond, c'est une pratique qui permet aux détaillants d'utiliser des symboles patriotiques pour gonfler les prix de façon injustifiée, d'appliquer, par exemple, une feuille d'érable sur des produits qui ne sont nécessairement pas du Canada. J'ai vu un cas de pommes affichées comme des pommes canadiennes, mais sur les pommes, on mentionnait « product of USA », donc des États-Unis.
Comme on vient de l'entendre, le tour de passe-passe n'est pas toujours très élaboré, et parfois, c'est même plus gros. On colle, par exemple, une feuille d'érable ou des drapeaux blancs et rouges sur des oranges ou des amandes, alors que, bien sûr, elles ne poussent pas ici. On gonfle quand même les prix et on espère que personne ne lira l'étiquette.
Mais sauf que c'était justement sans compter sur le sens de l'observation des consommateurs canadiens qui regardent davantage les étiquettes et qui sont sensibles à l'origine des produits, surtout dans le contexte en affi de la guerre commerciale avec les États-Unis.
Tout à fait, l'origine des produits est devenue un enjeu économique et politique. Alors même si les géants américains comme Walmart dominent toujours la vente de détail au Canada, il y a de plus en plus de Canadiens qui boycottent les produits américains dans les épiceries et le « Made in Canada » est devenu un argument marketing en or, surtout quand on sait qu'environ la moitié des Canadiens sont prêts à payer plus cher pour du local. Mais les consommateurs commencent quand même à flairer l'arnaque et ils réagissent. Il y a par exemple les plaintes qui ont explosé auprès de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les enseignes fautives se sont fait rappeler à l'ordre. La loi exige que les étiquettes soient véridiques puisqu'elles doivent permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Ces commerces ont dû s'excuser en plaidant l'erreur. Mais là, 6 mois après le lancement du mouvement Acheter canadien, ça ne peut plus être un simple accident pour Sylvain Charlebois et il dénonce aujourd'hui un problème systémique, une tromperie en fait, qui s'apparente à de la fraude.
Les explications de Nafia Libert, correspondante de RFI au Canada.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est un fléau qui est apparu il y a 14 ans sur les côtes des Petites Antilles, c'était donc en 2011. Et depuis, Benoît Ferrand, il ne s'est plus jamais interrompu, ce fléau.
Le fléau, c'est bien sûr l'arrivée sur les côtes des algues sargasses, les algues brunes. Un déferlement qui, au fil des années, ne diminue pas. Bien au contraire, il est même en augmentation cette année. Peggy Robert de la Première Guadeloupe.
Selon Météo France, l'année 2025 marque un tournant avec des échouements records d'algues sargasses. Les météorologues avancent plusieurs explications. Tout d'abord, les températures de surface de la mer ont augmenté de 1,3 degrés Celsius par rapport à la décennie 2011-2020. Avec une moyenne qui dépasse les 28,5 degrés, les eaux plus chaudes favorisent la photosynthèse et donc la croissance des radeaux de sargasses. Ensuite, les vents d'est plus forts qu'auparavant ont changé la trajectoire des courants de surface et ont élargi la zone de prolifération des sargasses. Autre dynamique à prendre en compte, celle des apports massif de nutriments. De très fortes pluies ont grossi les grands fleuves tropicaux comme l'Amazone, le Congo, l'Orénoque, qui ont eux-mêmes grossi et enrichi l'océan Atlantique équatorial de ces nutriments qu'ils charrient. Résultat, des échouements anormalement denses de sargasses entre avril et juin en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à la Désirade dont le port a été bloqué pendant plusieurs jours.
Voilà pour les algues brunes, qui sont d'ailleurs plutôt de couleur marron, et direction la Martinique maintenant avec les apiculteurs qui font grise mine. Oh, bien sûr, il y aura du miel du pays cette année, mais il n'y en aura pas beaucoup, semble-t-il. Reportage Viviane Mandouki.
Dame Nature est plus clémente cette année, mais pas généreuse. Pour le moment, aucun cyclone ni ouragan, au contraire, les fleurs sont bien debout. Et pourtant,
dans les ruches, pas de traces de miel. Si les abeilles n'ont pas de nectar, c'est qu'il n'y en a pas dans les fleurs. Comme on dit, belles fleurs sans odeur.
Les abeilles sont en forme. En revanche, elles évitent le surmenage et travaillent uniquement pour elles.
L'abeille, elle stocke. C'est d'abord sa réserve. C'est pour qu'elle puisse survivre. Et une fois qu'il y a un mauvais temps, elle ne va pas trouver de nourriture à l'extérieur. Elle va consommer ses réserves. Il faut savoir que l'apiculteur vit des réserves de l'abeille.
Dans son rucher du prêcheur, par exemple, auparavant, l'apiculteur pouvait prélever 4000 litres de miel. Mais ça, c'était avant.
Ben maintenant, si j'en fais 400, je suis déjà pas mal. Hein. Ça fonctionne moins bien. Avec deux fois moins de ruches, on faisait deux fois plus de miel.
Bon après-midi, Clotilde. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. À demain.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
La Martinique, l'île aux fleurs, vous invite au voyage avec ses plages de sable blanc ou volcanique et ses eaux cristallines. La Martinique, magique et magnifique, offre des paysages à couper le souffle. Un patrimoine riche et reconnu, une culture vive et métissée, une gastronomie créative et généreuse. Profitez de nos offres pour vous envoler à destination de la Martinique. Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur.
Criança, tá toda na brilha de inocência, e na mente detalhada, temporal talvez da mainá.
Je t'aime, mi amor, et me divertie, et n'est rien à la vida, too much. Je t'aime, mi amor, et me divertie, et n'est rien à la vida, too much.
Avec Batuki Music Society qui est fier de présenter la 12e édition
du Habari Africa Festival qui se déroulera du vendredi 8 au 10 août au Harbourfront Center. Votre radio préférée, CUT FM, sera sur place pour la transmission.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
L'été sera chaud sur CUT 89,5 FM Toronto. Emmenez Popourri Show et CUT FM dans vos valises en faisant le plein de podcasts inédits de nos partenaires au CREFO, Université de Toronto. Et les incontournables festivals et suggestions de voyage dans un des pays membres de la francophonie. Tout l'été, la musique résonne au rythme de la playlist de RFI et de la Little Music. Découvrez tous nos jeux concours et les rendez-vous de l'été de nos partenaires sur popourrishow.com. Et oui, là nous sommes au Harbourfront Center avec Batuki Music Society qui nous présente la 12e édition de Habari Africa Festival qui se déroulera du vendredi 8 au 10 août au Harbourfront Center. Et je vous rappelle que CIUT FM, notre radio préférée, sera sur place pour la transmission. Allez, venez nous voir, venez nous voir. Ce festival multidisciplinaire d'art africain est gratuit pour tous. Rejoignez-nous en direct pour un week-end d'exploration et de découverte de l'art et des sons du continent africain à travers des présentations célébrant la richesse et la diversité de la musique, de la danse, du cinéma et des arts africains. Et oui, et après cet artiste que nous venons d'entendre, Boubé, originaire du Niger, qui plonge son public dans l'atmosphère envoûtante du désert, de la richesse, de la culture tamasek. Cette expérience incarne parfaitement les aspirations de l'artiste, tisser des liens interculturels, favoriser le partage et promouvoir l'harmonie entre les communautés. Et là nous entendons Sewa, chanteuse, compositrice. Les artistes Sinta et You, plus connus sous le nom de Mimi, Zenebe et Daniel Nebiat, présenteront le meilleur de la musique éthiopienne et érythréenne lors de leur concert au festival Habari Africa. On écoute. Découvrez une musique diversifiée, entraînante, reflet de leur riche héritage culturel, des mélodies traditionnelles, et oui, des hauts plateaux au rythme vibrant de la vie urbaine, chantés en leur langue nationale. Leur musique transcende les frontières et allie rythme et accords singuliers propres à ces nations. Pour ce concert unique, un ensemble de musiciens de renom se joindra à Sinta et You, Mimi, Zenebe et Daniel Nebiat. À voir absolument le samedi 9 août dès 20h à Habari Africa Festival, une présentation de Batuki Music Society en partenariat avec CIUT FM et sera en direct sur les ondes de CIUT. Et plusieurs artistes et DJ africains que nous aimons bien, qui sont très connus sur nos antennes et à Toronto, seront à la partie de Habari Africa Festival. Et oui, Njakobako par exemple, et le village Kalimba Kalimba, dimanche le 10 août, de 13h à 17h. Vous retrouverez tous les détails sur le site web batukimusic.com ou le site de Harbourfront Center ou popourishow.com. Le cinéma s'invite au festival cette année. Ah oui, le film Take Me to Fendika, film qui sera projeté au Studio Theater au Harbourfront Center. Ah oui, Take Me to Fendike met en lumière la culture musicale traditionnelle et innovante de l'Éthiopie dans ce qu'il qualifie de meilleure salle d'Afrique. Eh oui, par son fondateur, le danseur de renommée mondiale, Melaku Bele, sous-titré en anglais, donc une période de questions-réponses après le film, présenté par Kobina Ulzen.
Et puis l'orchestre africain Okawango avec ses invités Lorraine Classel, Papé Ndiaye, Kabi Kouwaté, Dali Dominique et Mario Posella seront sur scène. Ça va être tout un spectacle à ne pas rater. L'orchestre africain Okawango, fondé par Batuki Music Society, lauréat des Juno et des Canadian Folk Music Awards, réunit musique, instruments de diverses cultures africaines pour créer un son nouveau, mêlant accords, rythmes, timbres variés. Tous ces musiciens, je vous rappelle, madame, monsieur, sont de passage, comme ça, au Canada. Ils sont arrivés des fois par, comme réfugiés à Montréal, à Ottawa, à Toronto. Et puis, notre ami Batuki Music Society les a réunis, a monté un groupe. Et puis, ça fait fureur. L'orchestre africain d'Okawango, à ne pas rater, madame, monsieur. Vous retrouverez tous les détails. Et je vous rappelle que tous les concerts sont gratuits. Les détails sur Batuki Music Society.com ou popurucho.com ou le site de Harbourfront Center. Et oui, donc à ne pas rater le week-end du 8 au 10 août sur CIUT FM en direct. Venez nous voir. CIUT FM, la radio des festivals, la radio de l'été.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur France24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci. Welcome.
J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à toute l'équipe des épopées de musique noire.
Joyeux anniversaire pour ta millième émission. Joyeux anniversaire.
Merci, merci, merci de nous nourrir les oreilles et l'esprit.
Bonjour, this is Shamika Copeland and I am so excited to wish my friend Joe Farmer and the team at Radio France International for 1,000 shows.
Pour cette millième émission de l'épopée des musiques noires, voilà, j'ai voulu partager avec toi.
This is to celebrate and congratulate you on your 1,000th show and wishing you many, many great more shows. This is Femi Kuti from the New Africa Shrine in Lagos. Keep on giving us those good shows.
Happy anniversary on your 1,000th show.
Joe Farmer, a voice we need to hear. Loud and clear for many more years. Hey Joe, keep going. Love you.
It's okay.
Je déclare officiellement ouverte la playlist des vacances. Assurez-vous de passer de bonnes vacances en écoutant Afrique Soir et en allant sur RFI.fr.
Afro Club, le hit des platines avec DJ Facemaker, tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.
Hello, c'est Andy 4000. Retrouvez-moi dans le mixbox de la chaîne YouTube de RFI dès maintenant. Allez, c'est parti.
Devoir de mémoire, décoloniser la mémoire. Le 23 août, souvenir de la traite négrière et de son abolition. Nous avons le plaisir de recevoir un nouveau partenaire, Image Création Interprétation, un centre culturel de Montréal regroupant des artistes passionnés qui ont à cœur de mettre en avant les arts de la scène. Et il nous invite à la 5e édition du Festival du Souvenir, qui se déroulera du 14 au 23 août au quartier Ahuntsic à Montréal. Le festival fut institué à Montréal en 2020 pour souligner la date de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, commémorée chaque année le 23 août par l'UNESCO. Le Festival du Souvenir offre au public une semaine de réflexion et d'activités culturelles sur la mémoire de l'esclavage et la culture des peuples racisés. Du 23 au 30 août, rejoignez-nous pour célébrer la mémoire à travers des expositions, projections de films, des conférences inspirantes, des rencontres interculturelles et des émissions spéciales sur CUT 89,5 FM. Et cette année, Monsieur France Benjamin, écrivain, poète et homme politique profondément enraciné dans le monde culturel, assumera le rôle de président d'honneur. À ses côtés, Madame Chantal Ismay, féministe, militante politique, sociologue, urbaine et chercheur communautaire, assumera avec conviction le rôle de porte-parole de cette 5e édition résolument tournée vers la justice historique et la revalorisation des mémoires marginalisées. La présence de ces deux personnalités inspirantes promet une programmation vibrante, porteuse de sens et d'engagement. Le Festival du Souvenir, 5e édition, à retrouver sur www.ici-theatre.ca ou popourichaud.com. Voici un message de Madame Chantal Ismay, la porte-parole de la 5e édition du Festival du Souvenir du 23 au 30 août à Montréal.
Je suis Chantal Ismay, porte-parole de la 5e édition du Festival Souvenir. Un festival organisé par le Centre culturel ICI, Image, Création, Interprétation. Ce festival se veut un rappel à sortir de l'oubli institutionnel, à refuser les récits tronqués, à faire place aux voix qu'on a trop longtemps réduites au silence. Donc, venez découvrir des artistes de différentes disciplines, des penseurs, des penseuses, des chercheurs, des chercheuses, des poètes, des descendants et des descendantes de personnes esclavisées. Il y aura une programmation riche que, à travers leurs œuvres, ces personnes vont essayer de reconstruire les fragments de cette mémoire éclatée. Donc il y aura du théâtre, des conférences-débats, des journées de rencontres interculturelles, des expositions d'art et plein d'autres choses. Donc du 14 au 30 août, je vous invite à venir prendre part à toutes ces activités qui sont gratuites ou à contribution volontaire, histoire de se rencontrer dans ce lieu rare où l'art est politique, où la parole est réparation et où la mémoire est résistance. C'est un festival pour se relier, se transformer, se souvenir avec lucidité. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas seulement de mémoire haïtienne ou africaine, mais d'une mémoire humaine partagée par toutes et tous que nous devons reconstruire ensemble. Donc, rejoignez-nous pour faire de ce festival un lieu de parole, de catharsis, de vérité et de beauté. Pour plus d'informations sur la programmation, consultez le site web de ICI au www.ici-théâtre.ca. Ensemble, décolonisons la mémoire.
J'aimerais toujours voyager. J'aimerais toujours
gilan wuya de qalan wuya dan san fil tarayan wuya de gilan wuya de qalan wuya dan san fil tarayan awaznu ha da had dunya imanin awaznu da had dunya imanin on va chanter ensemble j'aimerais toujours voyager. J'aimerais toujours voyager parce que je suis un nomade.
Et de retour au Harbourfront Center avec le festival Abari Africa, présenté par Batuki Music Society. C'est la dernière journée, madame, monsieur. Allez, venez nous voir. Et merci mille fois à tous ceux et celles qui sont passés nous voir. Vous savez, si Ayuti est là, sur place, depuis vendredi soir. Et oui, nous venons d'entendre Boubé, un de mes artistes préférés qui a envoûté la foule vendredi soir. Multi-instrumentaliste de Nigeria, Boubé plonge à ses auditeurs dans l'atmosphère envoûtante du désert et la richesse de la culture Tashmak. Spécialisé dans la musique Touareg, souvent surnommée Blues du désert, Boubé explore les thèmes de la paix, de l'amitié et des voyages d'aventure, s'inspirant de son héritage et de mode de vie nomade du peuple berbère. Il vit désormais à Montréal. C'est un artiste qui promet. Et cet après-midi, dès 16h, Batuki Music Society vous invite à découvrir une perle du Sénégal, Sahad, artiste musicien. Son prénom signifie « récolte » en sérère et « résurrection » en wolof. Le musicien, chanteur et producteur Sahad se décrit comme un taxi brousse qui parcourt le monde en quête de richesses issues de nos différences pour les partager. Il nous présente son nouvel album « Luma ». Sahad est un artiste tourné vers l'avenir pour un monde meilleur. Il évoque la construction d'un éco-village, un projet éco-responsable qu'il a initié au Sénégal. De l'afro au jazz, du blues au folk et au funk, toutes les influences africaines et cosmiques de Sahad ont été réimaginées, donnant naissance à une expérience musicale kaléidoscopique, apportant un son innovant à la musique alternative sénégalaise. Après 2 albums acclamés, Sahad revient avec un projet puissant et profondément enraciné, African West Station, une véritable odyssée musicale qui traverse les frontières du temps et de l'espace, reliant l'âme vibrante de l'Afrique de l'Ouest au reste du monde. Je vous invite à venir nous rencontrer, madame, monsieur, au Harbourfront. C'est la dernière journée pour applaudir cet artiste du Sénégal. Je vous y attends nombreux. CIUT FM est sur place pour la retransmission, comme c'était le cas vendredi et samedi. Avant d'aller voir Sahad, et oui, il est en train de monter sur scène en ce moment, je remercie très chaleureusement tous ceux et celles qui ont participé à notre émission estivale de ce dimanche, de la Little Music et ses nouveautés de l'été, la belle équipe d'Apéro Chic qui nous offre des laissez-passer pour le prochain Apéro Chic, et puis nos nouveaux partenaires du Centre Culturel ici, pour images, créations, interprétations, qui nous invite à la 5e édition du Festival du Souvenir. Décolonisons la mémoire. Découvrez la très riche programmation sur ici-theatre.ca ou popourucho.com. Merci à Linda Giguère de TV5 Monde. Merci infiniment à nos généreux donatrices, donateurs, nos partenaires qui ont renouvelé leur carte d'adhésion pour 2025-2026. La rentrée 2026 sera chaude. Eh oui, et qui dit mois d'août dit notre anniversaire, l'anniversaire de CUT-FM. Et oui, merci à DJ Devera et tous les techniciens à Penthouse. Une grosse surprise bientôt pour les membres de la radio. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine. Je vous souhaite un très bel été et un hiver pas trop pénible à nos amis de l'océan Indien. Bon séjour à l'île Maurice, à Nancy, Chloé et Dan Morningstar, nos amis de toujours. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Allez, je vous laisse avec Sahad en direct de Harbourfront Center dès 16h ce dimanche. C'est gratuit et mille merci à Batuki Music Society. Ciao, ciao, ciao.
Tunuma fever gunala. Jiri koko de sopunala wai. Take me fair, sopunala. Good.